Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Vendredi 9 septembre, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, le beau temps se poursuit, le ciel va se dégager, il y a un petit peu de brouillard ce matin, c'est de courte durée. Et on aura du soleil aujourd'hui, 28, humidex 31. Et puis pour la fin de semaine, ben demain, pas mal de soleil, 30 degrés encore une fois, l'humidex à 35 et finalement dimanche, soleil et nuages autour de 29 degrés. On va parler de la reine tantôt, mais je veux revenir sur ce féminicide hier à La Salle. Et je vous le dis, on est exposé, surtout Bénédicte dans son travail, à ce genre de crime. Et elle est revenue hier profondément bouleversée, puis je peux la comprendre. C'est d'une violence inouïe. Les enfants qui se retrouvent sans mère, et c'est leur père qui a tué leur mère. Et à chaque fois qu'il y a un féminicide comme ça, c'est un paquet de questionnements. Puis, je vais vous parler tantôt d'un documentaire qui sera présenté dans quelques jours, qui s'appelle « Fuir ». Et ça va être présenté au cinéma du musée et à la Cinémathèque. Appelons ça une sortie limitée, ce qui est dommage. J'ai regardé le film hier et ça devrait être vu par le plus de gens possible. C'est un film de Carole Lagagnère, qui sera notre invitée plus tard dans l'émission. Et c'est un film qui a été tourné dans un refuge, où on voit donc des femmes qui sont allées chercher protection, aide, compréhension, et des intervenantes qui sont dans cette maison. Des histoires différentes, des âges différents, des origines différentes, mais plusieurs points communs. Et ce qui m'a fait sursauter quand Bénédicte me parlait du fait que le gars s'était caché dans un abribus, habillé en noir. Dans le film, il y a une des femmes qui raconte que la police était venue l'avertir que son ex se cachait à l'extérieur, habillé en noir, avec des jumelles, puis regardait ce qui se passait dans la maison. Et les intervenantes elles-mêmes disent, on n'est pas ici pour rien. C'est qu'on a, dans notre vie, fait face à de la violence, que ce soit à la maison quand on était jeune ou encore dans une relation de couple. Puis il y a deux, trois trucs qui m'ont frappé, que j'ai déjà entendu, mais ça revient. C'est à quel point ces relations toxiques, violentes, peuvent durer longtemps. Et cette espèce de sentiment de culpabilité qui habite les femmes, les gars arrivent à leur faire croire que c'est de leur faute. Que si je te frappe puis que je te cogne la tête sur le mur, là, ben t'as couru après. Puis si toi tu changes pas, moi je peux pas changer. Mais ça se fait que, je cite dans le documentaire, qu'il y a juste avec toi que je suis violent. Elle sera avec nous, Madame Lagagnère, mais en plus, ce matin, il y a un jugement dont les détails sont dans le Nouvelliste de Trois-Rivières. C'est un gars qui écope de 2 ans, on ne peut pas le nommer, là, il y a des interdits, 2 ans de prison, puis une probation de 2 ans, des procédures qui ont duré 4 ans. 4 ans de démarche devant les tribunaux. Et il y a un paquet de conditions de violence conjugale rattachées à son dossier de violence conjugale. Je vous raconte l'histoire rapidement. Ça commence en 2015. Après 3 semaines de fréquentation, l'homme démontre des signes de jalousie et de contrôle envers la plaignante. Première dispute, il la frappe à la tête, au point qu'elle voyait noir, elle était étourdie et craignait pour sa sécurité. Ça a duré 3 ans, cette relation-là. Il y a tellement de similitudes avec les témoignages entendus là, dans le film. et elle a donc subi cette violence à répétition de façon régulière, pratiquement chaque semaine. Frapper la victime avec la main ouverte ou son poing. L'accoter au mur, la prendre à la gorge, l'étrangler, lui tirer les cheveux pour l'empêcher de partir. En plus de lancer des objets en sa direction. Je vais m'arrêter là parce que il y a un descriptif des lésions corporelles qu'elle a subies pendant toutes ces années. Et il a reconnu sa culpabilité. Il a finalement avoué ce qu'il avait fait. Là où j'accroche encore, c'est que la défense dans ce dossier-là, savez-vous quel était l'argumentaire? Puis je comprends, là, c'est la job, ça s'appelle Maître Bertrand Jacob, là, sa job de défendre le gars. Il voulait une peine avec sursis, un suivi probatoire compte tenu de l'antécédent judiciaire du gars. Puis en plus, il dit, il a plaidé coupable. Il a évité un procès, puis c'est un actif pour la société. Ça nous rappelle un autre jugement. Et il dit qu'il a des remords, il reconnaît ses torts, va chercher de l'aide. Quoique là, il est plus ou moins fidèle à ses traitements, là on invoque la COVID. Mais donc, on voulait pas l'envoyer en prison. Elle a subi l'enfer pendant des années. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sortie de là? Pourquoi elle a enduré ça? Il n'y a pas de réponse intelligente à donner, mais ça arrive. Pis c'est pas un cas isolé. Et je pense que c'est important ce matin, là. Je comprends l'effervescence médiatique autour de la reine, mais quand tous ces éléments-là sont mis ensemble, c'est important. Puis c'est important d'envoyer un message aussi, c'est pour ça qu'on en parle, de dire à ces femmes qui subissent de la violence, il y a des mains tendues qui existent, il y a des organismes qui sont disponibles, puis il faut en parler, puis il faut sortir, puis c'est pas simple. Quand il y a des enfants, c'est une complication aussi. Mais disons que ça fait énormément réfléchir. On va pouvoir élaborer davantage là-dessus tantôt. Je vais poursuivre avec le volet de la magistrature, parce qu'il y a encore là des éléments intéressants ce matin. Hier, le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, était notre invité, parlait de ce qui va se passer à Québec la semaine prochaine. Donc, la Cour va siéger. L'objectif, c'est de se rapprocher de la population, que les gens comprennent mieux le système de justice canadien. Et puis hier, vous avez la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, qui participait à la rentrée parlementaire. C'était une forme de tradition, palais de justice de Montréal. Le ministre Simon Jolin Barrette était présent. Et Madame la juge Rondeau a dénoncé le traitement médiatique de certaines décisions. Dans son discours, elle a partagé deux inquiétudes, c'est-à-dire l'effritement, je cite là, entre autres ce qu'il y a dans la presse de ce matin, l'effritement du décorum lors des audiences et le travail des médias. Hier, on parlait avec le juge Wagner de l'absence de ressources, du manque de greffiers, de procès qui sont retardés d'accès à la justice. Elle, ça semble pas être une priorité. Elle se dit indignée des propos inadmissibles publiés dans les médias dans le cadre de récentes décisions qui ont été rendues. Je viens de vous parler d'une décision, là. La décision, c'est 2 ans, mais la défense demandait pas mal moins. Puis on se souvient de l'histoire de l'ingénieur Hull qui a eu, appelons ça, la clémence du tribunal dans une affaire d'agression sexuelle en disant que le pauvre homme, ben c'était un actif pour la société puis ça pourrait nuire à sa carrière. Alors, elle dit que ça n'a pas de bon sens que les médias disent n'importe quoi. Comment n'importe quoi? Ça fait à peu près 5-6 fois qu'on invite la juge à venir à l'antenne pour discuter de ça, et elle refuse systématiquement. C'est son choix. Mais si tu attaques, viens au moins défendre ton argumentaire. Et tout ça est en toile de fond avec la partie de bras de fer qu'elle a avec le ministre. Elle, elle veut réduire la semaine de travail des juges pour leur permettre de prendre du temps pour écrire leur jugement et augmenter le nombre de juges également. Je pense que ça, c'est un débat intéressant. Puis c'est l'indépendance entre la Cour et le ministre. Et les deux, là, ça se blaire pas. Ça, c'est clair aussi. C'est dommage. Le juge Wagner est venu hier nous exposer son point de vue. C'est quand même le juge en chef de la Cour suprême du Canada. Et je vous le dis, là, la juge Rondeau doit faire à peu près 10 fois qu'on tente de lui proposer une discussion le matin sur les enjeux de justice qui touchent bien des gens. C'est les mêmes questions. Comment ça se fait qu'il manque de personnel comme ça? Comment ça se fait que les causes sont reportées? Comment ça se fait que des causes vont tomber à cause du manque de personnel? Puis qu'on a, chez beaucoup de gens, ce sentiment que c'est pas possible d'avoir des procès équitables parce qu'on n'a pas les moyens de se payer des avocats. La reine, qu'est-ce que je peux vous dire ce matin? Peut-être les faits les plus importants. Il y aura un discours du nouveau roi, Charles III, dans les prochaines heures, une espèce de proclamation officielle. Il y a 96 coups de canon qui vont résonner à travers la capitale pour marquer les 96 ans d'Élisabeth II. Et la date des funérailles reste à déterminer. Et par la suite, il y aura ce deuil qui va se prolonger 7 jours au-delà de la date des funérailles. Puis il y aura la cérémonie officielle de couronnement. Comme je disais tantôt, pas mal tout a été dit sur la reine. Puis c'est sûr qu'il y a un sentiment partagé. D'un côté, elle représente la monarchie, l'Empire britannique et l'histoire du Québec et la relation avec l'Empire britannique, pas tout à fait la même chose que certains autres pays. Mais elle a, comme reine, quand même présidé à la décolonisation. Et je voyais les commentaires, c'est pas banal, 70 ans de règne dans des périodes d'après-guerre, des périodes marquantes de l'histoire, entre autres, les changements dans les pays africains, dans les pays du Commonwealth, et cette espèce de grandeur qu'elle dégage, ou qu'elle a dégagée pendant toutes ces années, personnalité forte, froide, on lui a reproché beaucoup de choses quand Lady Diana est décédée, cette espèce de distance qu'elle avait. Il y avait une tragédie dans son pays. Là aussi, on parlait de son manque de sensibilité. Pardon, mais c'était une femme quand même remarquable. Et c'est pas pour rien qu'elle génère ce concert d'éloges. Mais en même temps, je pense qu'on a tout dit. Et que je vois toutes les émissions spéciales, je comprends. Puis il y a eu des séries, puis Catherine va nous en parler, là. Extraordinaire sur la famille royale. Parce que c'est un mélange à la fois. Tu sais, c'est un symbole, bien sûr. Puis c'est la monarchie au Québec, on entend que c'est pas ce qu'il y a de plus populaire. Puis est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Mais en même temps, c'est associé à un respect pour les personnes. Il y a une curiosité. Et la famille a été marquée par une série, appelons ça de drames, la mort de Diana, les frasques d'Andrew, Charles, le divorce, Camilla qui arrive dans le décor. Hier, on discutait, est-ce qu'on aura encore des billets de banque avec la reine? Le visage de la reine. Et la réponse est que les billets existants, bien sûr, vont continuer de circuler, mais éventuellement, puis ça, s'il y a une procédure à suivre, ben ce sera le nouveau roi qu'on verra sur les billets. Campagne électorale, le premier ministre Legault a fait une pause, ça reprend aujourd'hui. Je pense qu'il était assez content, tu sais, question de timing dans la vie, là. Parce que hier, on repartait sur l'histoire de l'immigration, et c'est clair qu'il essayait de récupérer tout ça, là. Et je pense que la façon dont c'est expliqué hier, puis bon, c'est rentré le dentifrice dans le tube, mais ça a créé, et je pense que là où beaucoup de gens sont un peu, au-delà de se sentir visé quand on est un immigrant, ça vient comme presque bloquer le débat, qui est pourtant essentiel, sur le nombre d'immigrants. Parce que ça, c'est un vrai débat. On veut combien d'immigrants au Québec? Quelle est la capacité d'accueil? Puis je fais abstraction des lenteurs d'Immigration Canada pour régulariser des statuts. Mais la société québécoise est prête à accueillir combien de personnes? Hier, j'ai fait une tribune téléphonique avec des immigrants qui appelaient, puis qui parlaient de leur intégration, comment ils étaient fiers. Puis dans certains cas, c'était des fils d'immigrants, puis qui se sentaient mal des propos de M. Legault. Et pour qui la société québécoise est un symbole d'accueil. Puis oui, il y aura toujours des gens qui vont passer à travers les mailles des enquêtes de sécurité, puis des gens violents, puis des prédicateurs infâmes qui vont quand même continuer à sévir. C'est ce que je voulais. Va arriver. Il y a combien de gens qui viennent ici parce qu'ils veulent avoir un meilleur avenir, parce qu'ils veulent fuir des régimes, je le disais hier, des dictatures islamiques, des régimes corrompus, et qui voient le Canada comme une porte d'entrée extraordinaire vers plus de liberté, puis vers une amélioration économique de leur sort. Et c'est plate, justement, qu'une gouffe, comme on dit, qu'une dérape comme ça empêche pratiquement le débat, ou en tout cas retarde le débat. Les autres chefs aussi, eux, ont continué. Et quand même, c'est intéressant. Rapidement, quelques nouvelles économiques. On sait que les taux d'intérêt sont à la hausse. Et le président, chef de la direction de la Banque Scotia, qui dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, je ne sens pas la récession. Et pour prendre son image, il dit, il y a une différence assez notoire entre ce que pensent les gens de Wall Street ou de Bay Street, donc les gens qui spéculent à la bourse, et les gens de Main Street, c'est-à-dire les entreprises. Pour les entreprises, dit M. Porter, les signaux sont verts. C'est pas qu'il n'y a pas d'inflation et qu'il n'y a pas de préoccupation, mais on est loin de cette espèce d'angoisse, dit-il, qu'on retrouve sur les marchés financiers puis qui explique votre portefeuille qui est un peu en dents de scie actuellement. Donc, c'est intéressant de pouvoir lire ça ce matin. L'Ukraine, qui prétend avoir fait des gains importants sur plusieurs fronts contre les forces russes. Et je vais terminer ce matin. Hier, je parlais d'un gars qui s'est mis à tirer à Memphis, au Tennessee. Ça a fait 4 morts, quelques blessés. Et on parle beaucoup de la violence, puis c'est à Montréal, là, puis on le sent encore, quelqu'un de poignardé, puis encore des coups de feu, puis il y a quand même un effort là, des groupes d'intervention des policiers. Mais pour faire une comparaison, je voyais hier le maire de Memphis parler du nombre de meurtres dans sa ville en 2021, puis la tendance de 2022, là, c'est pas à la baisse, là. 346 meurtres dans la ville. Population, 650 000 personnes à peu près. Montréal, là, on est loin de ça, c'est quoi, 10%, 15% de ce qu'on a comme total à Memphis. C'est vrai que Montréal n'est pas une ville dangereuse, sauf que les citoyens se sentent pas bien. Puis dans le cas, pour ça que j'en parle ce matin, dans le cas de Memphis, c'est que le gars se promenait sur la rue et tirait à peu près dans toutes les directions, s'emparait d'un véhicule, blessait une femme, tirait en direction de quelqu'un dans un magasin pour finalement être arrêté. Et le maire disait, c'est pas normal qu'on dise à nos citoyens, restez chez vous le soir, puis c'est pas normal que les gens aient peur de sortir. Dans leur cas, 346 meurtres, c'est une réalité assez brutale, mais à Montréal, il y a quand même cette préoccupation-là, même s'il faut répéter que Montréal n'est pas une ville violente, que la criminalité n'est pas comparable, mais c'est quand même pas mal achalant. Puis en particulier dans certains arrondissements qui sont plus chauds.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Hier, à La Salle, une femme de 29 ans a été assassinée. Féminicide. C'est un drame horrible. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. On va quand même tenter de vous l'expliquer. Puis vous allez comprendre pourquoi, ce matin, on va prendre du temps pour aborder la question de la violence conjugale. Tantôt, je vais vous parler d'un documentaire. Puis je vais vous parler aussi d'une autre décision qui a été rendue dans un dossier à Trois-Rivières qui pousse encore la réflexion sur ces femmes qui subissent de la violence. Et je me dis, plus on en parle, plus peut-être ça peut aider des gens qui sont carrément coincés dans une relation toxique de couple. Bénédicte était à La Salle hier. Je vous le dis, les faits sont ça a pas de sens. Ça a pas de sens ce qui s'est passé. Puis toi-même qui as une bonne expérience, là, t'es revenu de là complètement chamboulé, là.
Ouais, troublé parce que les circonstances, les enfants étaient présents. La femme, elle s'appelle Gisèle Bétondi, tu le disais, une femme de 29 ans, et poignardée à mort hier matin. Ses trois enfants étaient à proximité. Et ce qu'on est capable de comprendre, c'est que cette femme-là, elle vivait dans la peur depuis un bon moment, déjà. Et c'est une femme qui avait accouché il y a quelques mois à peine. Ses enfants sont tout petits. 2 mois, 1 an et demi, 3 ans. Et elle a été attaquée dans le stationnement, tout près de son immeuble à logement. C'est sur la rue des Aublats à La Salle, à une place où elle se cachait. C'est ce que ses amis m'ont dit. Elle était là avec la mère d'une amie, justement, qui l'aidait avec le bébé. Et son ex-conjoint, c'est un homme de 50 ans. Il a été arrêté hier soir. C'est un homme qui est connu des policiers. Et il faut le dire, il a déjà été l'objet d'accusations de violence conjugale. Il faut spécifier aussi que c'est le père des trois enfants. Et il y a plusieurs proches qui m'ont dit qu'il était violent avec elle depuis un bon moment, déjà. Il y aurait eu des interdictions de se trouver chez elle, de contacter Mme Bétondi, de s'approcher d'elle. Et je regardais dans son dossier criminel, on voit des accusations d'agression armée. On voit des bris de conditions. Il a été acquitté dans une histoire de menace de mort. Il a fait de la prison dans les derniers mois jusqu'à cet été. Ça reste complexe, le dossier, à comprendre exactement pourquoi il a été libéré. Mais hier, j'ai rencontré Sally. C'est une amie de la victime et elle m'a vraiment fait un bon portrait parce qu'elle a passé les dernières heures avec elle. Et Gisèle, ce qu'elle lui a dit, c'est qu'elle a mentionné avoir vu son ex-conjoint rôder près de chez elle mercredi soir. Il était habillé tout en noir. Elle le voyait de la fenêtre. Il était clairement placé. Là, moi, j'ai pu voir la scène. Elle habite au 3e étage. L'arrêt d'autobus est juste là. Elle a pu le voir de là. Et elle venait tout juste de déménager à cet endroit-là, m'a-t-on dit, pour justement fuir cet homme-là. Elle aurait changé d'endroit plusieurs fois. Elle espérait qu'il ne la retrouve pas. Elle était terrorisée. On peut entendre ce que Sally m'a expliqué.
Mais la nuit passée, elle m'a dit qu'elle a vu son mari à l'arrêt d'autobus. Elle m'a dit qu'elle a peur parce qu'il est violent, vraiment violent. Donc, et chaque fois, il dit que quand je te vois, je vais te tuer.
À chaque fois qu'il la voit, c'est ce qu'il lui disait, selon ses amis.
Je t'écoute, là. Je fais une parenthèse parce que je vais vous parler d'un documentaire qui s'appelle « Fuir ». Une des femmes qui témoigne raconte qu'un jour, la police est arrivée pour lui dire que son ex était à proximité de la maison avec des jumelles habillées tout en noir et l'espionnait. Une autre témoin, exactement ce que tu viens de dire, qui répète constamment, « Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Je vais aller reconduire. » Puis le petit est en arrière dans l'auto, là, puis qui dit, « Regarde ta mère, c'est la dernière fois que tu la vois. » C'est...
Imagine la peur de ces femmes-là au quotidien. Et là, c'est ça, c'est qu'elle était effrayée. Et là, jeudi matin, Sally est allée la rejoindre. Se sont rejointes à l'extérieur pour aller reconduire les enfants à la garderie. Là, c'était pas clair si elle y allait toute seule. Et elle avait dit à son amie, je vais appeler la police si je le revois. Et là, Sally est rentrée chez elle chercher une bouteille d'eau. C'est juste à côté. Et c'est à ce moment-là, pendant qu'elle était à l'intérieur, que l'homme s'en serait pris à elle. Sally a assisté à une partie de la scène.
C'est comme s'il était quelque part. Parce que c'est quand j'ai entré dans la maison pour prendre l'eau, subitement, j'entends un gros cri. Sally, Sally! Quand je tourne, je vois qu'elle était en terre et son mari l'a tué avec le couteau. Et c'est devant les enfants qu'il fait ça. Immédiatement, j'ai appelé le 911. Et quand il fuit, Gisèle, avec la force, est venu sous moi. Tomber dans mon appartement. La seule chose qu'elle dit, c'est appelle 911. J'ai dit, restez là. Ne dois pas rester là.
J'ai une pensée pour Sally quand même aussi parce que c'est extrêmement difficile ce qu'elle a vécu. L'homme a pris la fuite à pied vers un boisé après. Les policiers l'ont retrouvé plusieurs heures plus tard. Et l'ami me disait qu'elle sentait que c'était vraiment bien planifié. Disons qu'il l'attendait au bon endroit, au bon moment et il a saisi l'opportunité. Hier, j'ai assisté à plusieurs scènes déchirantes, je te dirais, les amis de Mme Bétondi qui se sont présentés sur place en matinée, qui se sont carrément effondrés devant le périmètre de sécurité, en pleurs, des cris de douleur en réalisant ce qui s'était produit, parce que c'est quelque chose pas qu'il avait vu venir, mais tu comprends qu'avec le contexte, on se demande pourquoi elle n'a pas été protégée. C'est ce qu'on me disait. On peut d'ailleurs écouter une amie qui s'est confiée à moi sur place.
C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est pas aujourd'hui. Il n'avait pas le droit de venir comme proche d'elle. Comment est-ce qu'il a eu accès à elle? Vraiment triste, vraiment triste. C'est dans notre communauté, c'est pas quelque chose qu'on vit là. Fait que c'est la première fois que ça arrive. Ça dans notre communauté, fait que c'est vraiment que tout le monde est bouleversé. Je sais pas si le système a bien protégé Gisèle avec ses enfants.
Et une autre scène crève-cœur, je te dis, le souffle m'a coupé. On en voit des choses, mais cette scène-là m'a particulièrement marquée. En fin d'après-midi, la DPJ est venue à l'appartement pour chercher les enfants. Et quand j'ai vu les intervenants sortir avec les deux bébés dans leur coquille, le petit de 3 ans, j'ai trouvé ça tellement triste. On voulait surtout aussi là, les placer en sécurité à ce moment-là parce que l'homme n'avait pas été encore retrouvé. Et je vais juste mettre un peu de contexte. La victime, elle est d'origine camerounaise, mais n'a pas de famille ici. Elle était très, très proche des membres de sa communauté religieuse, les amis à qui j'ai parlé, entre autres. Et elle était arrivée au Canada il y a environ 4 ans. Elle était parrainée par son ex-conjoint, qui est également camerounais. Et hier, j'étais avec les amis qui essayaient de rejoindre la famille au Cameroun au téléphone. J'étais avec eux, le choc, la famille qui essaye de s'organiser pour venir au Canada. Et il y a une amie qui s'est tournée vers moi et qui a dit, la mère vient me dire, il l'a amenée là-bas, en parlant du Canada, pour la tuer. C'est ce que la mère a dit. Alors, tout le monde sous le choc là-bas, écoute.
Ça veut dire que ce climat de violence, de menace, était en place depuis longtemps.
C'est ce que les gens qui sont proches d'elle m'ont dit. Ça reste que c'était difficile quand même pour elle. Plusieurs disaient pourquoi elle n'est pas partie définitivement.
Mais ça, on l'entend dans chaque cas. Pourquoi, dans le cas de Trois-Rivières, dont je parlais tantôt, là, la violence a commencé dans les premières semaines de fréquentation, si on veut, de relation. Et ça s'est étalé sur 3 ans. Puis là, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'elle est restée? J'ai pas de réponse, là.
Mais il y a des facteurs, il y a des enfants en jeu,
toujours,
des fois.
Toujours, il y a toujours des raisons. Puis avec la réalisatrice du film aussi, on le voit, là, parce que ce sont des femmes qui, dans la plupart des cas, sont restées. Puis il y en a même une, il y a une scène qui est très frappante où on, je dirais, dans le cadre d'une thérapie, on leur demande de placer en priorité les gens importants dans leur vie. Tu sais, avec qui, là, c'est important que tu te retrouves. Puis là, il y a une des femmes qui dit, ben mes enfants, c'est ce qui est le plus important dans ma vie. Puis une autre qui dit, ben moi, pour une fois, là, ça va être moi qui va être la personne la plus importante. Puis il y en a une autre qui dit, ben mon ex est encore important dans ma vie, même si elle a subi là cette violence-là. Fait que tu sais, c'est pas simple. Là. On tire pas des conclusions comme ça.
Et dans ce dossier-là, je dois spécifier qu'il y a certains dossiers où l'homme a été acquitté. Et il y a certains dossiers où possiblement elle aurait témoigné pour la défense, la victime, donc aurait peut-être changé d'idée. C'est très complexe, les relations-là. Et ses amis me disaient, c'est très complexe, on le sent qu'elle est coincée là-dedans, elle veut s'en sortir, mais en même temps, il y a des attachements avec les enfants. Pour ce qui est de l'homme, il était rencontré hier soir par les enquêteurs, possiblement encore aujourd'hui. On surveille la comparution, possiblement aujourd'hui, à voir justement quelles seront les accusations. Et j'ai l'impression que peut-être dans les prochains jours, on va essayer de comprendre un petit peu mieux la dynamique, les accusations, qu'est-ce qui a permis que cet homme-là soit libéré? Parce que c'est souvent ça la question. Comment est-ce que c'est jusqu'à tout récemment qu'il était en prison à cet été?
Ouais, pourquoi il est sorti? On n'avait pas le choix. Quelle sorte de conditions on a imposées? Bref, il manque encore des éléments là, pour comprendre.
Et encore tout le monde, c'est plate quand on dit ça, là, mais c'est vraiment la réalité. Tout le monde me dit, je ne suis pas surprise d'entendre ça. Je suis atterrée, c'est ça que les amis disaient, je suis atterrée, mais on savait qu'il y avait un contexte de violence, donc on n'est pas surprise. C'est infiniment triste.
Merci, Bénédicte. L'annonce du décès d'Élisabeth II a provoqué hier, évidemment, toutes sortes de réactions. En Grande-Bretagne, bien sûr, on a vu les gens se rassembler devant le palais de Buckingham et des réactions dans la rue. D'ailleurs, on aura d'autres détails sur les événements à suivre aujourd'hui, notamment l'allocution que doit prononcer le nouveau roi, c'est-à-dire Charles III. Et je fais d'abord un peu un survol ce matin avec Étienne Boisvert, qui est de la Ligue monarchiste du Canada, qui est donc un spécialiste de la couronne britannique. Monsieur Boisvert, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai qu'en Grande-Bretagne, bien sûr, beaucoup de réactions, mais à travers le monde, on a vu des réactions en France, on voit des réactions évidemment au Canada, aux États-Unis. Comment vous expliquez, je dirais, cette espèce de réaction mondiale au décès de la reine Élisabeth?
Je pense que c'est véritablement la contribution de cette femme. Puis tu sais, aujourd'hui, hier, c'est 70 ans de règne, de dévouement. Les gens ont utilisé différents termes, mais je pense que c'était une femme, pour utiliser les termes de M. Trudeau, intéressée et intéressante. C'est une femme qui a vu les chefs d'État défiler. Quand on garde à l'esprit que son premier ministre au Royaume-Uni, c'était Winston Churchill, au Canada, Louis Saint-Laurent, elle a accompagné presque la population mondiale au cours des 70 dernières années avec grâce, avec dévouement, avec un sens du devoir qui a été presque irréprochable en 70 ans. Je pense qu'aujourd'hui puis hier, les réactions, c'est justement souligner, au-delà des débats qu'on peut avoir sur l'institution, la contribution de cette femme.
C'est clair que c'est un personnage historique, non seulement pour la durée de son règne, mais pour les événements, les crises, les hauts, les bas auxquels elle a été confrontée. Mais avez-vous l'impression qu'avec son décès, puis sans relancer tout le débat là, sur l'institution, la monarchie britannique risque peut-être pas de disparaître rapidement, mais de générer moins d'intérêt?
Peut-être que oui, peut-être que non. Faut quand même garder à l'esprit que la monarchie britannique, là, c'est une institution millénaire qui s'est réinventée au fil des règnes, au fil des générations. Probablement qu'en 1901, à la mort de la reine Victoria, il y en a certaines voix qui s'élevaient pour dire que c'était la fin de cette institution-là, mais il y a un nouveau souffle qui est arrivé, il y a eu des changements. Par exemple, le rôle politique est quand même grandement diminué, puis dans un esprit démocratique, je pense que c'est souhaitable. Mais donc, le nouveau visage de la monarchie aujourd'hui, le roi Charles III, imprimera certainement quelques éléments sur cette institution, dans un règne qui devrait être quand même beaucoup plus court que celui de sa mère, mais quand même. Puis les prochaines générations, inspirées par cette histoire millénaire, certainement, là, que contribuera à l'institution.
On reviendra sur le nouveau roi. Parlons encore une fois de la reine Élisabeth II. Des gens qui, à l'époque, et on l'a vu à travers certaines séries, lui reprochaient une certaine froideur, une certaine distance, son attitude lors du décès de Lady Diana. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Mais je pense que c'était véritablement une femme qui a donné sa vie pour le sens du devoir. Elle avait une conception très traditionnelle de ce devoir, de cette retenue, d'une grande dignité. Puis en même temps, surtout au niveau, là, je pense par exemple au décès de Lady Di, un sens de la famille très important. Puis à cette occasion, puis différents films et différentes séries, le premier réflexe de la reine a été de s'occuper de ses petits-enfants qui venaient de perdre leur mère. Et puis elle avait peut-être un petit peu sous-estimé justement le besoin de soutien de l'ensemble de la population à cette époque, mais clairement une femme qui s'est dévouée à l'institution puis qui a même sacrifié une partie de sa vie. Hein.
Quand on parle du successeur du pape, on peut parfois, selon le contexte, parler d'un pape de transition. Est-ce que vous croyez que le nouveau roi est un roi de transition et que, dans le fond, les Britanniques attendent William?
Je vous dirais que dans ce contexte-là, j'aurais tendance à vous dire qu'on jugera l'arbre à ses fruits. Certainement que ce sera un règne plus court, un règne de transition. Vous faisiez mention des papes. Je pense que dans le cas du pape François, on parlait d'un pontificat de transition. Et pourtant, sans être un expert du tout de l'institution, là, ça m'apparaît être un pontificat qui est plus que juste de transition. Donc, faudra voir. Je pense que l'institution, au cours des 70 dernières années, a quand même perduré. Comment le prince Charles, le roi Charles aujourd'hui, mettra son image, on jugera l'arbre à ses fruits peut-être.
En terminant, croyez-vous que ça va relancer le débat, là, encore une fois, sur le Canada et la monarchie, donc de couper les liens avec la couronne britannique?
Peut-être que oui, peut-être que non. Il faut quand même garder à l'esprit, là, au plan technique, là, la loi constitutionnelle de 1982 au Canada, c'est pas un texte qui se modifie si simplement. Donc, faudra voir. Aujourd'hui, hier, je pense que les propos ont plutôt salué la reine, puis le règne impressionnant qu'elle a fait au cours des 70 dernières années. Plus tard, on pourra peut-être se poser quelques questions.
Merci beaucoup. Étienne Boisvert, qui est de la Ligue monarchiste du Canada. Maintenant, on va aller du côté de Londres parce que tout indique que le nouveau roi va prendre la parole en début de soirée, heure de Londres. Gérard Herens est avec nous, journaliste en direct de Londres. Monsieur Herens, bonjour.
Bonjour, Paul. Effectivement, le peuple britannique attend avec impatience tout de même la première intervention publique du nouveau souverain. Charles III, ce sera son nom. On avait quelque peu murmuré qu'il pourrait choisir un autre nom. On a parlé notamment de George VII, qui serait une sorte de coup de chapeau à celui qui fut son grand-père. Finalement, il conserve son premier prénom. Ça sera Charles III, donc, qui va intervenir en fin de journée. Par ailleurs, dans quelques instants, d'ici un quart d'heure environ, l'artillerie britannique va tirer 96 coups de canon pour saluer les 96 années, bien sûr, de l'existence de la reine défunte et marquer ainsi le deuil national. D'autres signes de deuil, les manifestations sportives prévues aujourd'hui sont reportées, des matchs de football, de cricket, les courses de chevaux, tout cela est reporté, bien entendu. Et puis, les funérailles elles-mêmes auront lieu dans une dizaine de jours à l'abbaye de Westminster. La dépouille de la reine sera ramenée à Westminster, dans le Westminster Hall, qui est un édifice qui est vieux de près de 1000 ans, et qui est sur la place du Parlement, donc juste devant la Chambre des communes. Et le catafalque sera dressé dans cette salle où le public pourra rendre un ultime hommage à la souveraine défunte.
Est-ce qu'on sait à quel moment aura lieu le couronnement officiel du nouveau roi?
Or, ça sera dans quelques mois. À titre indicatif, lorsque la reine avait été montée sur le trône, en quelque sorte, son couronnement n'avait eu lieu que 16 mois plus tard. Elle était devenue reine en février 1952 et son couronnement a eu lieu en juin 53. C'est vous dire que ce sont pas des festivités, en quelque sorte, qu'on organise du jour au lendemain. Il va s'écouler quelques mois au moins. Je pense que ce sera pour l'été prochain.
Si vous aviez à traduire pour nos auditeurs ce matin le sentiment des Britanniques face au décès de la reine, qu'est-ce que vous nous diriez?
Alors, écoutez, la reine, c'est la mère de la nation. Hein? La très grande majorité des Britanniques n'ont connu qu'elle comme chef d'État. Il faut avoir 80 ans et plus pour se souvenir d'un autre chef d'État qu'elle. Donc, elle était présente par les médias, par ses interventions, tout au long de ces 7 décennies à la tête de l'État et du Commonwealth, soit dit en passant. Donc, c'est profondément ancré dans l'esprit des Britanniques. Et ça ne s'efface pas du jour au lendemain, naturellement, ce qui explique des déversements de larmes, des amoncellements de fleurs devant les grilles de Buckingham Palace, à Windsor également, un peu moins en Écosse, à Balmoral, où c'est une toute petite localité où la population est beaucoup plus clairsemée, mais à Londres, hier soir, malgré la pluie, il y avait des milliers de personnes devant les grilles de Buckingham Palace. Donc c'est vous dire que c'est un deuil profondément ressenti par toute la nation.
Quels sont, selon vous, les défis du nouveau roi Charles, qui... évidemment, devant cette espèce d'amour inconditionnel que les Britanniques avaient pour leur mère, ça n'a pas été toujours le cas non plus avec lui.
Non, il est indiscutablement moins populaire que ne le fut sa mère. J'ai vu une statistique hier après-midi indiquant que environ 40% des Britanniques auraient préféré que William succède directement à la reine Elizabeth plutôt que Charles. C'est vous dire qu'il est beaucoup moins populaire. Ça tient à un certain nombre de facteurs, à sa vie privée en particulier, à sa relation tumultueuse et dépourvue d'amour pour Diana en particulier. Donc leur séparation a été perçue comme un traumatisme. La mort de la princesse de Galles a été profondément ressenti. Et il y a eu, là encore, un deuil que la famille royale a mis beaucoup de temps à apprécier et auquel elle a mis beaucoup de temps à s'associer.
Gérard Herens, merci. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Gérard Herens, qui est journaliste, qui nous parlait en direct de Londres. Et pour ce qui est du roi, il va prendre la parole à 19h ce soir, heure de Londres, qui donne quoi 13h cet après-midi ici à Montréal.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
La nudité à l'intérieur des douches et des vestiaires. Et une des règles, c'est de prévoir que pour prendre sa douche dans les aires ouvertes, il faut porter un maillot de bain. Cédric Essimini est avec nous. Il est du Parc olympique. Monsieur Essimini, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, peut-être nous dire là, les nouvelles règles qui s'appliquent pour ce qui est des saunas, là, des vestiaires et des douches.
En fait, les nouvelles règles se résument à lorsque on utilise les vestiaires, c'est de toujours rester couvert autant que faire se peut. On comprend aussi que lorsque on se change présentement, il va y avoir un moment où on va être à découvert. Mais ce qu'on demande, c'est lorsqu'on circule entre les saunas et à la douche, de rester couvert et également dans le sauna, et également lorsqu'on prend sa douche, de garder le maillot. Pourquoi on fait ça? C'est simple. Dans un premier temps, c'est une demande répétée qu'on a eue de nos membres, de dire de mettre en place ces règlements-là. Deuxièmement, on a également une clientèle très variée. Hein. Le centre sportif, on accueille les sports-études. Donc, nous, là, dès septembre, on a des jeunes gens aussi jeunes que le secondaire qui sont là, qui viennent, qui utilisent les vestiaires. Et c'est par ce souci-là qu'on a décidé de mettre en place ces nouvelles règles-là.
Ça veut dire qu'il n'y avait pas de règles avant?
En fait, il n'y avait pas de règles strictes et de directives qui ont été mises. On se fiait sur, le bon sens et le vivre ensemble. Mais à la suite des demandes répétées qu'on a eues, là, on a dit, OK, on va mettre ça en place. On va éclaircir les directives pour s'assurer que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Donc, on a une clientèle, comme je vous l'ai dit, qui est variée, qui est de différents âges. Et c'est vraiment dans un souci de garder ça sur un même pied pour à peu près tout le monde.
Mais quand vous me dites des demandes répétées, là, pourriez-vous être un peu plus précis? Combien de demandes, puis les plaintes portaient sur quoi?
Ben en fait, ce qu'on avait, nous, vous savez, ça fait 46 ans qu'on est ouvert. Donc, on est ouvert depuis les Jeux olympiques. On a une clientèle qui est là, qui nous aime beaucoup. On a des membres qui sont là depuis une trentaine d'années. Donc, et on a également des familles, on a également des gens de sport-études. Puis, c'était par des courriels, par des discussions avec les agents de sécurité, avec les entraîneurs, etc., de dire, est-ce que ça serait possible de considérer qu'il y a d'autres personnes qui utilisent le vestiaire? Puis, vous savez, c'est un vestiaire qui est très, très ouvert, le vestiaire du centre sportif. Et comme il y a beaucoup d'équipements à l'intérieur même du vestiaire, ça crée de la circulation naturelle.
OK, mais oui. Là, vous répondez pas à ma question. Ouais. Moi, donnez-moi des exemples de comportements qui suscitaient des réactions des autres membres du centre, des gens qui vous téléphonaient, vous envoyaient des courriels en disant « il vient de se passer ça, puis c'est pas acceptable ».
En fait, ce qu'on voyait des fois, c'est dans certains cas des gens qui utilisaient, par exemple, le sauna plus longtemps que le temps était permis. C'était des gens qui étaient mal à l'aise, qui venaient nous voir, qui disaient « moi, écoutez, je suis mal à l'aise quand j'utilise le sauna, Moi, j'aime garder ma serviette. D'autres personnes n'utilisent pas leur serviette. Donc, d'autres personnes qui passaient de la douche au vestiaire en étant tout nu, en n'étant pas couvert. Vous savez, on n'est pas les premiers. Hein? Dès 2017, la ville de Brossard avait commencé. Il y a des arrondissements de la ville de Montréal qui l'ont, le campus de Sherbrooke aussi. On n'est pas les premiers, on n'est pas les seuls. Puis c'est vraiment pour répondre aux gens.
Je comprends ça, mais il y a, j'ai regardé les commentaires, puis j'en ai reçu. On comprend là que d'être le plus discret, poli possible, puis pas de devenir un exhibitionniste dans un vestiaire, c'est une chose. Mais pourquoi le maillot de bain pour la douche?
Ben, en fait, c'est parce que présentement, ce qu'on a, ce sont des douches qui sont ouvertes. Il n'y a pas de rideaux de paravent. D'ailleurs, je vous le dis, on va en installer des rideaux et des paravents dans les douches. Et donc, là, c'est pour ça, ça pouvait créer un malaise. Puis, donc, nous, ce qu'on a décidé, puis on a eu des gens, autant il y a des gens sur les médias sociaux qui s'insurgent, autant nous, on a des courriels également qui nous disent « Merci beaucoup, ça répond à ce qu'on voulait, etc. » Quand moi, je suis là avec mon enfant, des fois, j'ai un certain malaise, etc. Donc, nous, on est gestionnaires. Hein. Faut qu'on coupe la poire en deux.
Non, je comprends.
On essaie de satisfaire tout le monde.
Non, mais je vois des commentaires que moi, j'ai reçus ce matin à la station, là, puis des gens qui l'ont pas nécessairement dans votre vestiaire, mais des gens qui jasent tout nus debout, qui peuvent être là 20, 25 minutes, 30 minutes. Puis vous avez eu ça aussi, j'imagine?
Ben oui, mais tout le monde qui a eu un vestiaire se rappelle de l'anecdote, qui a utilisé un vestiaire se rappelle de l'anecdote. La personne qui refait le monde flambant nu devant nous, puis qui nous explique là, la politique ou whatever. Donc, on est vraiment là pour dire, ben écoutez, on s'ajuste. Puis on fait un peu ce qui est fait ailleurs. Nous, on a regardé aussi ce qu'il y avait dans les autres centres sportifs. Vous savez, on accueille, là, bon an, mal an, là, on peut accueillir 100 000 personnes au centre sportif. Wow. De ce nombre, environ, là, je vous dirais, la moitié utilise les vestiaires. Ça fait beaucoup de monde, de tout âge, etc. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que nous, faut qu'on tranche. Ces directives-là, je suis d'accord, ce ne sont pas nécessairement l'unanimité.
Non.
Mais avec la rentrée scolaire qui a commencé, les sports-études, il y a beaucoup, beaucoup de trafic dans les vestiaires.
Merci, M. Essimini. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Cédric Essimini du Parc olympique. Moi, j'ai résumé ça ce matin. Ce sont les règles Éric Salvaille. Mais c'est ça pareil. T'sais, si on résume, là, parce que lui, c'était fait pointer du doigt parce qu'il y avait une tendance à l'exhibitionnisme dans les vestiaires de centres sportifs. Puis, les camarades ici ce matin, toi, Bénédicte, t'as travaillé dans un centre sportif?
Oui, centre sportif universitaire, où il y avait aussi des jeunes enfants, il faut le spécifier, qui venaient la fin de semaine. Et il y en avait. Il y en avait où on était avertis. Des gens qui allaient traîner dans les vestiaires, pas avec nécessairement des bonnes intentions, des exhibitionnistes, mais quand c'est avec des jeunes enfants, là, c'est un petit peu plus troublant. Je te parlais tantôt aussi d'un cas qui m'avait marqué. Un homme qui se rasait dans le sauna. Tantôt, tu disais, reste trop longtemps dans le sauna. Ouais. Lui, il prenait un temps fou à rester dans le sauna, flambant nu, se raser. Et les gens, d'un, trouvaient ça malpropre, puis de deux, trouvaient ça un peu gênant.
Moi, j'ai un proche qui a géré des piscines publiques et il semblerait que le jet était un enjeu pour certaines utilisatrices.
Oui. Le jet est un enjeu pour l'utilisatrice?
Ben, des
femmes?
Des femmes dans les piscines qui pouvaient rester très longtemps devant un jet.
À certains endroits, ça peut être attrayant. Je suis pas bien.
C'était pour de la méditation. Mais oui, c'est sérieux, là, c'est un enjeu.
Je te suis. c'est un peu particulier. Hey boy, le jet.
Oui, le jet.
Ben, coudonc.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
On va revenir sur le décès de la reine Élisabeth II.
Mais dans un angle...
Oui, un peu différent, mais on va jumeler aussi l'annonce du décès et le Grand Prix cycliste, celui de Montréal puis celui de Québec aussi.
Oui, parce que notre invité a eu l'occasion de rencontrer la reine en octobre 2002 et s'est retrouvé au cœur d'une controverse à la suite d'une photo qui a fait le tour du monde. Et c'est aussi un ancien champion cycliste, donc on va lui parler des Grands Prix de Québec et Montréal qui auront lieu aujourd'hui et dimanche. Louis Garneau, salut!
Bonjour Alain, bonjour Paul.
Bonjour.
Louis, on va revenir sur cet épisode de Rideau Hall en octobre 2002. Tu participes à un événement où la reine est présente, il y a des photos qui sont prises et t'es en compagnie de la reine, tu poses la main sur l'épaule de la reine. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, les circonstances de cette photo.
Oui, Alain, quelle histoire. Je suis avec mon épouse, on est membre de l'Ordre du Canada, on est invité. Jean Béliveau est là en passant, puis des personnalités du sport. Alors, après le repas, la reine vient nous voir, on avait été présenté, puis elle nous dit dans un français, très très beau français, « Bonjour Monsieur Garneau, comment vont les affaires ?» Bon, j'ai dit ça va bien. Puis on commence à parler un peu de façon intime, on est tout proche avec Monique. Et à un moment donné, j'ai le réflexe, j'ai dit, Madame la Reine, est-ce qu'on pourrait prendre une photo pour la famille? Elle a dit, certainement, Monsieur Garneau. Alors, elle se colle l'épaule sur mon épaule, un peu, on se touche. Et je venais de faire une photo avec Jean Béliveau. Vous savez, dans le sport au Québec, on fait des photos, puis on met la main sur l'épaule, c'est un réflexe. Et, vous savez, mon bras parti, j'ai mis ma main, Alain, j'ai senti la reine se saisir un peu, mais elle avait un très beau sourire. Et on a continué à jaser, j'ai pas remarqué d'anomalie, elle a été très polie. Et après ça, les journalistes sont sautés sur moi, en arrière, il y en avait une centaine, des photographes, et ils disent, Monsieur Garneau, qu'est-ce que vous avez fait là, vous avez touché à la reine? J'ai dit, oui, au Québec... Ça nous arrive. Il y a un journaliste du Sun, il dit, je veux avoir la photo. Alors, Monique avait un petit appareil Kodak avec un petit rouleau à l'époque, hein, ça fait 20 ans. Puis, il dit, donnez-moi le rouleau, je vais aller finir les photos. Je vous le promets, je rapporte les photos. Puis, lui, il voulait faire un scandale, vous l'avez bien entendu. Il nous suit jusqu'à l'hôtel, Alain. Et Monique dit, donne-lui donc, là, il est étonnant. Puis, c'est pas grave. Puis, nous, on pensait que c'est pas grave. Alors, il revient avec la photo, mais il s'était gardé une photo. Cette photo-là, je l'ai devant moi, c'est la fameuse photo avec le sourire. J'ai jamais vu la reine avec un aussi beau sourire, la reine, en passant. Mais et ça a fait le tour du monde. Et là, le drame commence. Le lendemain, des amis m'appellent à travers le monde. Qu'est-ce que t'as fait? La gaffe, tu roules sur CNN, je viens de te voir à l'aéroport en Allemagne. Tu vas fâcher tous tes clients, puis il y en a qui m'agacent, hein. Même des Ontariens qui m'ont joué des tours en disant on n'achètera plus jamais de toi, mon Louis, pour me dire après que c'était une blague, qu'on avait trouvé ça sympathique. Mais j'ai été inquiet à un moment donné. Là.
Mais là, Buckingham Palace s'en est mêlé, et c'est eux autres qui ont dit là, calmez-vous tout le monde, là.
Ben écoutez, j'ai demandé à mon adjointe de l'époque, j'ai dit, écoutez, voulez-vous appeler, là, parce que je commence à m'inquiéter. Puis on était dans une semaine, il n'y avait pas de nouvelles. Alors la seule nouvelle, c'était Louis Garneau, puis là, c'était ligne ouverte, est-ce qu'il a fait une faute au protocole, puis est-ce que ça va nuire à sa business? Et le Rideau Hall avait répondu qu'il n'y avait aucun problème, ça s'était fait en dehors de la cérémonie, puis la reine avait le droit de faire ça. Donc, OK, c'est parfait, il n'y aura pas un drame national. Puis écoutez, ça fait 20 ans, aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on m'en parle, à tous les mois, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, c'est toi le gars qui a mis la main sur l'épaule de la reine. » Alors peut-être que ça va arrêter, Alain, je ne sais pas. Mais quand même, je peux vous dire que les gars, là, c'est une personne humaine comme nous. J'ai quand même du respect. Bon, premièrement, on assiste à un décès d'une personne qui a été dans son rôle pendant 70 ans, qui s'est rendu à 96 ans avec une résilience. Parce que on est tous pères de famille, là, puis on a des enfants. D'avoir vécu les problèmes de leurs enfants, du gouvernement, de leurs ministres, et d'avoir tout le temps eu cette résilience, ce contrôle des émotions. Écoutez, ça doit être une personne très, très forte. Elle a commencé à 25 ans. Et elle n'a jamais parlé de retraite, alors que moi, je lui rends un hommage en passant sur sa résilience comme femme, même un exemple pour les hommes, d'avoir le fameux slogan que j'utilise souvent, on n'a jamais abandonné. Elle l'avait, elle l'a bien porté, elle s'est rendue à la fin de son mandat jusqu'à décéder. Alors, c'était une madame qui était très discrète, qui avait énormément disciplinée, qui avait sûrement une vie. En passant, vous savez, tous les problèmes, juste le problème d'Andrew, c'est assez pour faire mourir une maman, comme on dit souvent au Québec. Mais elle a tenu le fort, je ne sais pas comment. Elle avait sûrement une force mentale exceptionnelle et une rigueur de pouvoir se contrôler, jamais avoir d'écart de conduite. Alors, moi, je lui souhaite un beau repos aujourd'hui, Alain et Paul. Et je veux dire, c'est une anecdote que j'ai eue, que j'ai pas provoqué, ben, que j'ai pas organisée. Certains auraient voulu l'organiser, mais je leur fais plus jamais, les gars. Même pas avec Charles, je vous le promets. Là.
Louis, j'aimerais qu'on parle maintenant des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal qui auront lieu aujourd'hui et dimanche. Évidemment, il va y avoir de très bons coureurs, mais j'ai l'impression que celui que tous les gens voudront voir, c'est Hugo Hull.
Oui, puis c'est un bon point, Alain. Moi, j'invite tout le monde à venir encourager Hugo. Hugo me disait que pour lui, c'est important que la foule soit là. Hugo a gagné une étape au Tour de France cet été. On a été témoin de ça. Moi, j'ai même été le voir en personne parce que c'était trop extraordinaire. Il sera à Québec et Montréal. Il va faire beau. Ça coûte rien. Venez le voir. Et on va avoir tout un spectacle. En plus, il y a quand même deux autres Québécois qui sont là, Guillaume Boivin, et aussi il va avoir Antoine Duchesne qui a annoncé sa retraite hier, qui a été pro durant 10 ans. C'est un métier difficile, c'est un métier dangereux. Il y a une nouvelle vie après le vélo. Je souhaite bonne chance à Antoine. Mais si on parle des grands champions, vous allez voir... Il y a Van Aert qui vient ici, pas pour s'amuser, Pogacar, qui sont les grands champions, qui se préparent pour les championnats du monde. On va avoir tout un spectacle, messieurs, je vous le promets.
Et pour ceux qui pourront pas assister sur place, moi, j'en parlais avec Paul un peu plus tôt dans l'émission, les images de l'épreuve de Québec à la télévision sont spectaculaires. Tu vois la ville là, comme t'as jamais l'occasion de la voir. Là, c'est fantastique, le décor du vieux Québec, la grande allée, le boulevard Champlain le long du fleuve. Écoute, c'est d'une beauté, là. Si vous avez l'occasion de jeter, je sais qu'il va faire beau en plus, là. Si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil là-dessus aujourd'hui, c'est TVA Sport qui présente ça. C'est magnifique.
Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne
Louis.
Journée.
Merci à vous.
Au revoir. Salut. Alors, c'est Louis Garneau. Un petit mot rapide sur le football, là, quand même, parce que c'est ton week-end patate, là, qui commence. Le premier d'une longue série.
Non, c'est pas le week-end, c'est la saison de la patate.
Oui, non, mais c'est ça.
Les Bills de Buffalo qui ont gagné 31-10 sur les Rams de Los Angeles, les champions en titre du Super Bowl. Les Bills qui sont les favoris, là, pour remporter le titre, cette année. Le quart arrière, Josh Allen, a été spectaculaire, complété ses 10 premières passes. Les Bills ont marqué sur leur première séquence à l'attaque. De son côté, Matthew Stafford, victime de 3 interceptions. Sinon, là, on a parlé des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal en fin de semaine. Le CF Montréal qui pourrait confirmer sa place en série ce soir au Stade Saputo. Les Alouettes qui accueillent les Lions de la Colombie-Britannique, pardon, et Vernon Adams. Et finalement, pour les amateurs de football universitaire, c'est la première confrontation entre les Carabins et le Rouge et Or de l'Université Laval. Ça a lieu au complexe sportif Claude Robillard. À prendre en note parce qu'il y a des rénovations actuellement au Stade des Carabins.
Merci.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.